Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer, voici une musique qui devrait vous indiquer notre sujet de la semaine.
Qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on...
Pour cette rentrée politique, j'ai vu dans ma tête une réforme des retraites qui fait déjà débat. Une proposition de loi en faveur de la PMA là-bas. Un parti à droite en mauvais état. Et un maire de Levallois qui aurait préféré avoir la gueule de bois. Bref, il n'y a pas que l'Actuality qui fait sa rentrée. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année. Et on commence maintenant avec la rentrée politique sur Radio PFM 99.9.
J'écris des chansons sur des histoires inexistantes. Certaines arrivent à se reconnaître quand je parle cœur. J'ai un peu morflé, ma vie sentimentale est mortière quand j'ai décidé de la poser sur morale.
Évidemment, et comme d'habitude, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis entouré de Jeanne, bonjour Jeanne.
Salut.
De Chloé.
Salut.
D'Héloïse.
Salut.
D'Eude, qui rejoint notre émission.
Salut.
De Arthur.
Bonjour.
Et de Julie, à la régie.
Salut.
Et maintenant, je laisse le soin à Arthur de nous présenter, comme chaque année, le point information.
Merci Thibault. C'est la fin des vacances, nous reprenons les bonnes habitudes. Nous vous proposons un point information qui permettra de donner matière à réfléchir, à se cultiver, à apprendre pour pouvoir, juste après, débattre en toute intelligence. La réforme des retraites n'est pas à prendre en fonction des revenus perçus, mais plutôt par rapport à l'évolution des carrières. Ce nouveau système va créer une redistribution des carrières dynamiques vers les carrières déclinantes. Ainsi, un actif qui commence à 80% du plafond de la sécurité sociale et qui termine à 100% sera moins bien traité que celui dont le salaire est toute sa vie à 90% du plafond ou qui part de 100% pour atteindre 80% en fin de carrière. On a dernièrement manifesté contre cette réforme les agents de la RATP, les services d'urgence, les infirmiers et les avocats avec une mobilisation inédite. Concernant la PMA, la loi PMA, cette dernière est passée la semaine dernière. Malgré l'opposition de la droite, les députés ont approuvé jeudi soir la proposition du gouvernement sur la filiation des enfants de femmes homosexuelles nés par PMA. 3 heures de débat ont été nécessaires, mais la commission spéciale chargée du projet de loi sur la bioéthique a finalement adopté un amendement gouvernemental déposé lundi qui reconnaît dans notre droit l'homoparentalité pour les couples de femmes ayant recours à la PMA. L'amendement a été déposé lundi seulement, modifiant certains articles. Soutenus par les élus PS et PCF, cette modification permet aux couples de femmes d'être mères au même niveau, a salué Aurore Berger, LREM. L'affaire Balkany a défrayé la chronique durant de longs mois. Si les peines infligées par le tribunal correctionnel de Paris peuvent paraître sévères, il convient surtout de tirer les conséquences du jugement rendu vendredi 13 septembre dernier. La décision du tribunal correctionnel de Paris est tombée sur le premier volet des affaires Balkany. Le second volet se déroulera le 18 octobre. Le parquet a requis 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate et la confiscation de tous les biens de M. Balkany. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany de son prénom, a été immédiatement incarcéré après sa condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, assortie d'une peine d'inéligibilité de 10 ans et d'une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pendant 10 ans. Concernant le parti LR, les Républicains, celui-ci est toujours divisé, comme nous en avions déjà eu l'occasion de parler lors d'une dernière émission. Avant la coupure d'été, Valérie Pécresse claque la porte au LR, fonde son parti, libre, parti dans la tourmente, les ténors quittent le navire, Gérard Larcher tente de refédérer le parti pour écrire un nouveau scénario pour le citer. Nous verrons si cela a fonctionné. Globalement, dernièrement, M. Mélenchon a été condamné à 3 mois de prison pour acte d'intimidation, rébellion et provocation lors de la perquisition à son domicile et au siège de la France Insoumise. Enfin, la loi mobilité est passée à l'Assemblée la semaine dernière avec un assouplissement des 80 km/h. La fixation d'un cadre pour les trottinettes, une charte pour les travailleurs des plateformes comme Uber ou encore une rétribution pour aller travailler à vélo. Voilà les grandes lignes de cette rentrée politique.
Très bien, merci beaucoup Arthur pour la présentation de notre sujet de la semaine. Donc nous allons parler évidemment de tous les thèmes qu'Arthur a abordés. Et maintenant, donc, j'aimerais aborder la première question, vous poser cette première question. Donc, toutes les rentrées politiques sont un peu délicates pour les chefs d'État. Celle d'Emmanuel Macron a déjà mal commencé avec la réforme des retraites qui fait débat et a amené déjà de nombreuses personnes et les syndicats dans la rue. L'année du président s'annonce-t-elle très mal selon vous, cher chroniqueur ?
La rentrée du président s'annonce-t-elle très mal pour vous, cher chroniqueur ? Ben, le président est, comme avant les vacances, face à plusieurs difficultés, donc... Les gilets jaunes, tout ça, bon voilà, ça s'est atténué. Encore qu'ils ont l'intention de remanifester prochainement.
Oui, notamment ce week-end, demain, samedi, pardon, 21 septembre, à l'occasion des journées du patrimoine, voilà.
Voilà, un programme de rentrée politique chargé. Donc oui, des enjeux importants, la réforme des retraites, comme on l'a dit, qui a du mal à convaincre tout le monde, puisque forcément on touche à certains statuts. Je pense notamment à la RATP ou encore aux avocats, même aux infirmiers qui ont manifesté dernièrement, comme je l'ai tenu exactement, dans mon propos. Donc forcément, on touche à des statuts qui sont, après chacun son avis, mais pour moi, privilégiés. Par exemple, les personnels de la RATP qui bénéficient d'un départ en retraite pas précoce, mais avancé par rapport à d'autres professions. Mmh. Et forcément, ça fait débat.
Je pense qu'elle est mitigée, mais pas catastrophique. Enfin, je veux dire, il y a des débats qui sont pas hyper bien reçus par l'opinion publique, mais en même temps, sa cote de popularité, elle est en hausse. Donc, c'est un peu un mix des deux, entre ça se passe mieux qu'avant et c'est toujours pas super bien, quoi.
C'est juste, on est sur un petit 40% de popularité pour Emmanuel Macron.
Non, mais c'est déjà mieux qu'avant.
Ah oui, ça a augmenté. J'ai plus les chiffres exacts, mais ça a augmenté.
Et est-ce qu'on peut s'attendre à une année qui sera peut-être meilleure que celle des Gilets jaunes ? Est-ce qu'on peut faire pire déjà à celle qui s'est passée l'année dernière ?
C'est dur quand même.
Et le mouvement des Gilets jaunes qui a quand même occupé la bonne partie de l'année ?
Mais tout dépend, parce que rien que là, dimanche, si je ne me trompe pas, il y a une manifestation pour la PMA sur Paris. Donc si les Gilets jaunes ne s'arrêtent pas et qu'en plus il y a de nouveaux sujets qui font réflexion, qui embêtent les Français, que les Français disent leur mécontentement, ça risque de ne pas être plus simple en tout cas.
Ouais,
peut-être.
Mais les Gilets jaunes, ça s'est quand même pas mal essoufflé depuis
le
début.
Oui, bah heureusement, depuis le temps. Mais il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. En tout cas, je ne dis pas que ça sera beaucoup plus compliqué ou quoi, mais...
De toute façon, pour les Gilets jaunes, je pense que pour avoir un mouvement d'une envergure telle, il faudrait quand même avoir... un sacré mécontentement, donc ça va être quand même assez difficile de reproduire une action comme l'année dernière.
D'accord, donc pour toi le mouvement des Gilets jaunes ne se reconduira pas, ne reprendra pas son souffle. Est-ce que Chloé, par exemple, tu partages ce même point de vue ? Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes peut reprendre un certain souffle avec notamment la réforme des retraites qui arrive sur la table et qui fait déjà débat ?
Je pense pas que ça soit le mouvement des Gilets jaunes qui... là, il s'essouffle et je pense que c'est un fait. Il va pas reprendre forme comme par magie parce qu'il y a toujours le même problème de il n'y a pas de porte-parole, de c'est pas organisé, etc. Et le problème là, il restera toujours le même et ils arriveront pas à... Enfin, je pense pas que ça soit un mouvement qui a un rapport de force. Néanmoins, je pense que pour autant, les mobilisations ne vont pas s'arrêter, car pour la réforme des retraites, pour la PMA, etc., c'est pareil, la PMA, on va en reparler après, mais on donne le droit à la PMA, mais on la refuse pour les personnes transgenres. Et en fait, c'est un peu tout le temps ça que fait le gouvernement, c'est il fait un pas en avant, mais il en fait trois en arrière. Il te donne un truc, mais il te le donne pas complètement. Ce qui fait qu'en gros, ça fait fermer la bouche à une certaine population française qui malheureusement, comme ils ont pas de capital culturel, etc., et donc... très souvent les prolétaires, et ils se disent que c'est déjà ça parce qu'on leur a toujours habitué à se dire t'as pas de plainte quoi comparé aux autres pays. Donc je pense que le problème sera toujours le même. Le gouvernement donne un petit peu mais donne jamais assez. Donc je pense pas que les mobilisations s'arrêteront. Néanmoins je pense pas que ce sera les Gilets jaunes qui continueront parce que toujours le même problème de désorganisation, etc. Enfin, c'est né d'une bonne intention, mais la façon dont c'est fait, ça n'a pas de rapport de force, donc ça ne fonctionne pas, donc ça ne va forcément pas se remettre en route.
D'accord. Qu'est-ce qui pourrait prendre la suite des Gilets jaunes, selon toi ?
Les syndicalistes.
Syndicats ?
Mmh. Oui. Après, toujours le même problème de la population qu'ont les syndicats,
La popularité.
La popularité qu'ont les syndicats, qui est assez souvent mauvaise. Donc, à voir si on... Toujours une question de conscientiser les gens et de si ça fonctionne ou pas. Parce
que le problème des syndicats, c'est qu'avec la crise des Gilets jaunes, il y a quand même eu un rapport de force gouvernement-syndicat qui s'est totalement inversé. Enfin, je veux dire, ils n'ont plus vraiment
on
de...
A eu le... Parce qu'en fait, on a eu la preuve du... les syndicats n'ont jamais été écoutés. Et c'est quand tu mets des gens dans la rue que ça fonctionne. Ouais. Donc je pense que la façon, c'est aussi aux syndicats d'avoir un rapport de force différent, parce que c'est bien beau le dialogue social, mais la façon dont c'est fait, ils ne sont pas écoutés, donc c'est pas très utile. Je pense qu'il faut vraiment un mix de le travail syndical, qui, à contrario du travail des Gilets jaunes, était bien plus formé et bien plus... et puis c'était vraiment des revendications claires. Enfin, les syndicats ont des revendications claires qui sont posées, quoi. À contrario des Gilets jaunes, où c'est... c'est des revendications de prolétaires, c'est normal en même temps, genre les gens, eux, ils veulent que ça change clairement dans leur vie, et c'est des trucs, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'essence, c'est des exemples précis, donc je pense qu'il faut un mix de la précision des syndicats et des gilets jaunes de la rue.
Disons. Et puis le problème des gilets jaunes, c'est qu'il y avait quand même, je sais pas, 50 demandes différentes, enfin, oui. Ils se mettaient pas d'accord sur une ou deux grosses demandes, ils voulaient tous des choses différentes, et à un moment, ça peut pas marcher, quoi.
C'est ça le problème. En fait, je pense qu'il faut organiser après, voir si on part d'un point de vue classe ouvrière ou les gens en général. Partons pas dans un point de vue marxiste, mais il faut organiser les gens en général pour que ça soit clair, quoi, précis, mais pour autant, les gens en ont peur. Donc les Gilets jaunes, c'était ça, hein, clairement. On veut pas des syndicats, en gros, ils vont nous voler la vedette, entre guillemets, et on n'aura plus notre liberté d'action. Sauf que pourtant, si tu t'organises pas, ça fonctionne pas.
Donc plus d'organisation selon toi pour que les gilets jaunes puissent perdurer et un mix aussi entre les syndicats et les gilets jaunes, si je comprends bien ton propos. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette question des syndicats et selon toi, est-ce que le gouvernement va encore décevoir les Français ?
Je vais pas parler du gouvernement, je vais juste rebondir sur le propos de Chloé. Je pense que l'analyse qu'il faut avoir, c'est que dans notre société, on a un problème de représentativité. Ça, on le sait. Les chercheurs en sciences politiques, ça le disent. Et donc, restructurer, hiérarchiser un mouvement syndical, ça va s'avérer très compliqué. Ce qu'il faut maintenant, on a le tour avec les syndicats, avec les partis politiques, avec tout type d'organisation aujourd'hui, c'est trouver un nouveau modèle de représentativité pour permettre au plus grand nombre, de se sentir vraiment concerné par toutes les problématiques que sont les nôtres actuellement. Et comme tu disais, enfin après c'est ton point de vue, mais pour moi, les syndicats seront amenés à mourir tout doucement, mais à se faire remplacer par d'autres formes d'expression.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses, Chloé ?
Non, je pense pas. Je pense que il faut les faire d'une manière. Enfin, je pense que c'est dans les syndicats et c'est à nous syndicalistes nous-mêmes de voir comment on peut faire mieux. Mais je pense pas que les syndicats sont voués à mourir. Je pense que peut-être qu'il y en a certains qui sont voués à mourir. Mais je pense que la CGT par exemple ne mourra pas. Ils sont là depuis des années. Certes, leur popularité, elle varie.
Décroît,
ouais. Elle
décroît majoritairement.
Elle décroît majoritairement. Mais c'est
après, en étant assez factuel, quand on regarde la population active, une part infime qui est syndiquée. Le syndicat, en étant vraiment factuel, ne représente pas bien la population dans sa globalité. C'est une part.
Après, il y a des syndicats pour tous les métiers. Je veux dire, il n'y a pas que la CGT, il y a énormément de syndicats. Donc ça représente quand même une grosse part de la population.
Non, parce que je te dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont syndiqués.
Parce qu'il y a 8% des Français qui payent une cotisation.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas syndiqués qu'ils
ne
sont pas d'accord avec les syndicats.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Et puis, c'est compliqué de parler avec le gouvernement si on n'a pas de représentants. On ne peut pas, on est des millions, on ne va pas tous aller voir Emmanuel Macron.
D'où la nécessité, après ça c'est mon point de vue, nouvelle fois, de redonner de la légitimité aux petits élus locaux. Donc ça passe d'abord par les maires, les adjoints, voilà. Pour avoir une proximité entre administrés et administrants.
Ouais.
Très bien.
Non, mais après, ça, je pense que c'est pas quelque chose pour lequel je suis contre. Hein. Je pense que ça paraît évident. Mais pareil pour les référendums, etc. Ça, c'est logique qu'il faut donner plus de représentativité. Juste, je pense qu'on aura toujours besoin d'organismes syndicaux pour pouvoir nous défendre au sein de nos entreprises. Après, d'une échelle nationale, je pense que les syndicats sont pas les. Enfin, que. C'est bien qu'ils soient là, mais que c'est pas le plus important. Le plus important pour moi à l'échelle nationale, en effet, c'est d'avoir plus de représentativité au niveau des élus locaux, des référendums, etc. Mais je pense pas qu'ils sont voués à mourir localement dans les entreprises.
Très bien. Donc Arthur, tu penses que les syndicats sont au plus mal en ce moment, que tu penses qu'il faudrait les refonder, les reconstruire. On continue de parler de tout ça après une petite coupure musicale. À tout de suite, c'est l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9. C'est toujours l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9. On est encore pour une petite dizaine de minutes pour parler de la rentrée politique et on va maintenant s'attarder au cas de la droite et des Républicains. Vous le savez, depuis l'élection des européennes et l'échec de Xavier Bellamy et de Laurent Wauquiez. Xavier Bellamy avait atteint seulement 8% des suffrages aux élections européennes. Depuis, Laurent Wauquiez a démissionné de la présidence des Républicains. Évidemment, il faut réélire un autre président. C'est ce que les Républicains vont faire les 12, 13 et 19, 20 octobre prochains. Pour leur nouveau président, il y a trois hommes politiques qui se présentent. Christian Jacob, seul véritable poids lourd de la droite, qui sera opposé au député Guillaume Larrivé, et Julien Aubert. Christian Jacob donc, semble être le grandissime favori de cette élection, mais peut-il faire mieux ou va-t-il faire pire que Laurent Wauquiez selon vous? Est-ce que quelqu'un peut nous commenter un peu cette situation à droite et nous donner son avis dessus?
Donc la droite, ça devient un peu comme la gauche. Hein. Je veux dire, la gauche a commencé à s'effondrer en première. La droite a résisté un peu. Mais là, quand on voit qu'ils font 8% aux européennes, qu'on ne connaît plus personne maintenant de la droite. Enfin, je veux dire, Valérie Pécresse, elle est partie. J'ai oublié son prénom.
Xavier Bertrand, il n'est plus...
Xavier Bertrand aussi.
Plus vraiment présent non plus.
Plus personne n'est dans la droite. Tout le monde va souvent vers La République En Marche ou vers l'extrême droite dans les autres cas.
Il n'y a plus que Gérard Larcher comme
leader.
Ouais,
en fait... Ouais, c'est le seul qui reste. Donc je pense que ça, c'est des partis qui sont un peu en train de mourir, malheureusement.
D'accord. Arthur, tu nous disais quelque chose d'intéressant sur Gérard Larcher. Même si Christian Jacob, vraisemblablement, sera élu à la tête de la présidence des Républicains, Gérard Larcher, est-ce qu'il sera, lui, le seul vrai patron de cette droite?
Déjà par son poste à l'Assemblée nationale, au Sénat, il a déjà une proximité avec ses collègues sénateurs. Ça lui permet d'avoir une forme de popularité, aussi bien au niveau de la sphère politique que auprès de la population. Il incarne un leadership et il essaye, j'avais lu dans un article, de refédérer. En écrivant un nouveau scénario pour la droite, donc refédérer en allant sur le terrain, en allant rencontrer aussi bien des élus que des gens lambda pour vraiment sonder la réalité de terrain et essayer de proposer quelque chose d'assez pragmatique.
Oh, mais ça, la gauche a déjà essayé de le faire et ça n'a pas vraiment marché. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec le fait que Gérard Larcher, ce soit le dernier, un vrai cador de la droite, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense qu'à un moment, la droite, vu comment c'est parti, ça va être dur de restructurer tout ça. Ou alors, va falloir recréer un autre parti. Mais je pense que la droite telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'a plus vraiment d'avenir, quoi.
Les Républicains vont-ils mourir, selon toi?
Bah, c'est plutôt parti pour. Hein.
C'est parti pour? Qu'est-ce que tu penses de toute cette question de la droite, toi, Eudes?
Bah, je pense que c'est parti pour mourir aussi, parce que c'est très difficile, parce que la droite est partagée entre En Marche, comme on l'a vu, mais avec le Front National. Donc, je sais pas vraiment si on peut encore parler d'une droite uniforme. Enfin, c'est même plus le cas, en fait, parce qu'avec tout l'éclatement qu'il y a eu ces derniers temps, ça va être compliqué de restructurer quelque chose d'uniforme et qui soit assez populaire pour avoir du poids politique.
D'accord, donc c'est compliqué de reconstruire. C'est ce que tu nous disais, Jeanne, tout à l'heure. Tu nous disais que ça a commencé par la gauche, qui a commencé à éclater. Quand Jean-Luc Mélenchon il est parti créer la France Insoumise, Benoît Hamon, qui a créé son mouvement Génération.
Ouais.
Et la droite, donc maintenant, il y a Xavier Bertrand, qui n'est plus vraiment présent. Il y a Valérie Pécresse, qui a, elle, fondé son mouvement Libre. Est-ce que le sort de la droite, ce n'est pas de devenir comme la gauche, selon toi, Chloé?
En fait, je pense que ça part. Ça fait la même chose que la gauche. Après, moi, je pense aussi qu'il y a un problème de représentativité aussi qui est. La gauche, les gens, ils y voient juste des fainéants. Et la droite, je vous rappelle que la plupart des gens ne sont pas riches. Hein, donc, du coup, en fait, la droite, pour eux, c'est juste des gens qui ne les représentent pas. Donc, d'où le fait que la plupart des gens, ils votent FN parce que pour eux, ça paraît juste le. On leur propose soit des gens à gauche où ils se disent que de toute façon. C'est des paroles en l'air, soit des gens à droite qui ne représentent que les riches. Alors forcément, le choix, il est vite fait et ils votent FN. Et puis en plus, c'est des populistes. Hein, donc on sait très bien que les populistes savent très bien convaincre les gens, disons. Donc d'ailleurs, c'est très bien pour ça que Mélenchon convoquait... Convaincu. Convaincu.
Plus convaincu.
Qui convainquait bien au départ quand il a créé son... quand il a créé son parti, et enfin son mouvement, bref, on s'en fout.
Ah, la conjugaison ici.
Et quand il a créé son parti, du coup, ça s'est essoufflé. Et finalement, Marine Le Pen sait très bien faire ça, convaincre les gens, quoi, la base, les prolétaires, les gens, les ouvriers, quoi. Donc, du coup, enfin, même bref, tout le monde, quoi, la base du peuple français. Donc, pour moi, la droite, elle est vouée à mourir comme la gauche est en train de mourir maintenant, parce que, enfin, ils sont tous en train de mourir, puisqu'ils n'arrivent pas à convaincre. Donc,
ouais, parce que ce qui est, enfin, pas marrant, mais ce qui est étrange avec l'extrême droite, c'est que quand même, on a ceux qui sont, on peut dire, plutôt très pauvres, qui ont pu vraiment d'espoir, enfin, si on peut dire ça comme ça, et ceux qui sont très riches, qui sont très catholiques, qui ont vraiment des valeurs, c'est, et c'est deux types de populations totalement opposées qui sont dans la droite, quoi.
Parce que t'as un côté, ceux qui ont vraiment le capital culturel énorme et qui sont juste posés dans leur, enfin, qui sont tranchés dans leur position et qui sont vraiment conservateurs à fond, et donc forcément, bah, l'extrême droite, ça leur plaît bien. Ouais. Et après, t'as l'autre côté, le peuple qui lui n'a pas, enfin, qui lui n'est pas du tout conscientisé, pas du tout politisé, et qui se dit, bon, bah, en fait, c'est juste, c'est à cause des médias aussi. Enfin, genre, à partir du moment où tout le monde te dit que c'est la faute aux migrants, que ceci c'est pas bien, que ceci c'est pas bien, bah forcément tu te dis bon, l'extrême droite ils te disent ça donc c'est vrai et puis je vote pour eux et puis c'est plus simple. Enfin, pour la droite, pour eux c'est vraiment pour les riches, et la gauche c'est trop genre c'est trop des paroles en l'air, des machins, c'est trop compliqué, alors on vote pour ce que la société nous dit entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont voués à mourir, c'est parce qu'ils sont pas représentatifs et qu'ils arrivent pas à toucher les gens, quoi, le peuple français, bref, la plupart des gens, quoi, si on enlève les 1% de riches.
C'est ça. Pour reprendre ton propos sur le FN, c'est ce que disait Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur cabinet de Jean-François Copé. Et c'est ce qu'il disait, il dit que qu'il y a un peu deux blocs au Rassemblement National. Il y a ceux qui adhèrent aux idées historiques du parti, notamment concernant les questions immigratoires, et ceux qui votent un peu par dépit économique, c'est ce que tu nous disais. Et justement, avec ça, et la République En Marche, pardon, qui fait de l'ombre un peu aux Républicains, quelle ligne adopter réellement à droite, pour ne pas ressembler ni aux marcheurs, ni au Rassemblement National et à Marine Le Pen?
Bah c'est ça le problème, c'est qu'avant le Modem, bon, c'était enfin un parti du centre mais qui avait pas tellement d'importance, et donc la droite avait véritablement sa place, et vu que maintenant la République En Marche c'est quand même un parti qui est censé être du centre mais qui est un peu plus de droite quand même, la droite est plus vraiment présente, enfin elle a plus vraiment de raison d'exister, donc en fait c'est soit République En Marche soit extrême droite, et finalement bah la droite c'est fini, quoi.
Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on se quitte sur ce mot de la fin. J'ai une petite dernière question, on en a parlé en introduction. Patrick Balkany, 4 ans de prison ferme, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste selon vous? Vous me dites juste injuste.
Juste. Pas suffisant.
Pas suffisant.
La même chose, pas suffisant.
Pas suffisant pour moi.
Juste.
Très bien.
Juste à rajouter que je veux bien avoir sa chambre de prison, parce qu'elle fait 9 mètres carrés et c'est ce que j'ai le droit l'année prochaine au CROUS. Donc s'il peut me la donner à...
Avec télé, téléphone inclus. Hein.
Ouais, bah oui, la télé, moi je suis pas encore sûre, tu vois. Il faut que je me la paye pour déjà. La télé.
Comment ? Il doit payer pour la télé. Mais bon, quand même.
Enfin, il doit payer, ça va, des sous, il en a. Hein.
Ouais, oui, c'est pas ce qui lui manque. Très bien.
Ça devrait aller.
Écoutez, c'était l'émission de l'actualité sur la rentrée politique. Merci à tous, merci à toute l'équipe. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux débats. À la semaine prochaine.
Salut.